ouvrir maintenant cette session sur le fait de trouver un terrain commun, risque ou réalité, dans l'intégration du VIH-SIDA et la santé sexuelle et reproductive. Nous espérons qu'il s'agisse davantage de terrains en commun plutôt que de parler de controverses, parce que d'autres sessions ont parlé davantage de thèmes controversés. J'espère que le thème que nous allons étudier bientôt sera justement celui de trouver un terrain commun pour les communautés et les soucis en question. Nous avions une session précédente à celle-ci qui a été décrite par un participant qui venait des Indes comme une session de position presque séparée pour l'éternité. Alors, je crois que nous pouvons dire simplement S-E-X-E en français. Nous ne répétons pas assez suffisamment le terme dans cette conférence, et il faut reconnaître justement que ça se fait dans le monde. Et comme Phil a noté dans un article qui a été distribué ce matin et qui on lit que le sida parle toujours de sexe. C'est évident. Reconnaître que à l'échelle mondiale, la transmission du VIH est avant et surtout de par des routes sexuelles, même là où les routes de transmission sont avant tout autres, surtout dans des droits où on peut avoir comme mode dominant de transmission l'injection de drogue. Cependant, ces gens-là font également des actes sexuels. Alors, nous avons également à parler d'autres questions, soins et traitements. Le sexe est toujours un enjeu. Et ça est sorti, justement. Oui, bien sûr, les gens VIH, est-ce qu'ils font le sexe? Oui. Eh bien, ils ont des droits sexuels. Et ils ont un besoin, eux aussi, de services sexuels et de reproduction. L'autre terrain en commun, c'est les causes clés et racines. C'est les choses qui ont toujours à faire avec la pauvreté, le genre, l'égalité, ce qui a trait avec la modernisation, avec la vulnérabilisation de gens. Donc, il y a beaucoup à apprendre les uns des autres. Plutôt que de dire, je suis dans une communauté ou dans l'autre. Dans cette session, nous avons des gens très distingués qui travaillent dans le domaine depuis bien longtemps et qui vont parler de quelques-uns des enjeux qui adviennent lorsqu'il faut développer des liens entre la santé sexuelle et reproductive en programme et les programmes VIH-SIDA. Ils seront concrets et pratiques lorsqu'ils vont considérer les expériences faites, desquelles nous pouvons nous tâcher d'apprendre et peut-être travailler dessus dans de différents endroits, dans différents secteurs. Nous allons parler de quelques-unes des actions qui doivent être prises au niveau de la politique, des programmes et au niveau également de l'octroi de services. Il y a quelqu'un qui nous manque encore. La personne qui nous manque encore est Tom. Alors, nous avons trop de femmes pour le moment ici, mais je vais vous présenter la première personne qui va parler. Nous allons avoir Dorothy Oyambo tout d'abord. Elle sera suivie de Nono Simelela Et puis alors, Javier Belloc, qui vient de l'Alliance VIH, si vous le voyez dans le corridor, faites-nous savoir. Puis Luna Collins, et puis Naomi Rutenberg, pour que vous sachiez quel sera l'ordre des intervenants. Et que je vous présente maintenant, Dorothy Oyambo, qui est, je pense, bien connue pour assez de vous. Elle travaille avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge dans le bureau régional à Nairobi. Elle est professeure de profession et elle est avocate des droits des gens qui vivent avec le VIH et le SIDA. Elle a été engagée de façon active dans l'activisme depuis 10 ans. Elle est passionnée. Elle est bien passionnée, on doit le dire, sur la question des droits des droits sexuels et de reproduction. Elle est conseillère technique à plusieurs réseaux de personnes qui vivent avec le VIH-SIDA et surtout dans le Kenya. Dorothy. Merci de cette introduction si ornée. Je crois que moi, je vais prendre une approche quelque peu différente. C'est-à-dire, je vais vous parler d'une histoire pour vous présenter le sujet, parce que je pense que cette histoire, peut-être, vous donnera mieux l'idée sur laquelle seront basées, j'espère, les discussions plus tard. Le dilemme typique pour ces gens-là, lorsque on parle de leur désir de fertilité et leurs besoins et droits quant au sexe et à la reproduction, il nous faut savoir qu'on est toujours en vie et que chaque être humain et un droit à quelques niveaux de contact, de compassion, d'amour. Puisque nous sommes VIH, on nous a condamnés plus souvent que non, mais néanmoins, dans cet isolement, vous pensez que c'est très difficile de vivre des vies confortables et pleines de santé. Nos désirs de fertilité et nos besoins, parfois, on les comprend pas, ou bien on les nie, on les limite. Ça dépend justement du contexte dans lequel la discussion prend lieu. Alors, nous avons bien sûr des besoins et des droits sexuels et de reproduction. Nous avons des désirs de fertilité qu'on devrait normalement prendre en considération, que ce soit au niveau des politiques ou dans la conception des programmes et ailleurs. Surtout les services qui ciblent ou disent cibler les gens qui vivent avec le VIH-SIDA. La question intéressante qui se crée, c'est en général la suivante. Si vous êtes positif, quels sont les besoins? Alors, là, il y a déjà une séparation entre nous et les autres. Ce sont des besoins normaux, et je le dis, si nous voulons croire que ça fait partie des droits des gens qui vivent avec le VIH-SIDA, alors il faudrait traiter ces besoins d'une façon compréhensive qui répond à toute la gamme des besoins de soins que peuvent avoir les gens vivant avec le VIH-SIDA. Alors, il nous faut... Quand nous pouvons exiger ces droits et ces services, voilà la question qu'il faut regarder. Si, il faut être honnête. Les gens travaillant avec ces besoins ont trouvé que... Vous trouvez que peu de gens qui nous donnent des services font entrer en jeu ces besoins et ces droits. Il manque très souvent de prendre en considération les besoins quelque peu uniques de ces gens qui vivent avec le VIH-SIDA. Cela est le cas dans des questions de santé maternelle, surtout lorsqu'on parle de la prévention de transmission de la mère à l'enfant. Et surtout, toute la gamme de santé sexuelle et reproductive. Il est difficile pour moi, très souvent, parfois du moins, d'accepter les choses les plus fondamentales, un accès aux préservatifs, parce que normalement, on suppose que ce n'est pas le cas pour quelqu'un comme moi. Et ce dont nous avons besoin de façon normale est toujours mis de côté. Plutôt que l'éducation dans les préservatifs et plutôt que les indications, nous, on est condamnés, on est punis. Beaucoup des conseils, c'est des conseils qui, où nous, on nous dit qu'il faut plus attractif sexuellement. Les attentes qu'on soit séropositif, bien sûr, ça a toujours joué un rôle prépondérant. Et la grande question, c'est est-ce que vivre avec cette maladie, ça nous rend moins humains? En plus de l'accès au traitement et aux thérapies antirétrovirales, nous croyons fort que aimer bien la vie et avoir une attitude positive compte beaucoup pour étendre la vie de quelqu'un qui est atteint. Lorsque on peut avoir une vie sexuelle pleine de santé, responsable et normale, c'est pas trop demandé. Si on comprend les besoins spéciaux des gens vivant avec le VIH-SIDA, on pourra comprendre que c'est normal. Nous avons besoin, nous, d'information, d'éducation sur des méthodes sécuritaire de faire le sexe. Mais les gens qui nous donnent des services pensent presque pas à nos besoins. Ils se concentrent les efforts éducatifs sur l'abstinence ou sur d'autres méthodologies. Et parfois, c'est des méthodologies qui n'ont aucune application quant aux femmes qui vivent dans beaucoup d'endroits dans le monde. Comme nous savons tous, et comme montrent maintenant les preuves, ceci nous met devant un dilemme, surtout si on est femme, parce que nous savons, parce que les femmes ont très peu de contrôle et ne peuvent pas, comment et avec qui avoir le sexe. Beaucoup de gens ont besoin de protection, mais les gens qui nous fournissent les services ne pensent que à la solution la plus facile, préservatif. Et nous savons que les préservatifs, ça n'a pas toujours marché pour bloquer les femmes qui devenaient enceintes. Très peu d'informations sont disponibles sur les méthodes appropriées et correctes pour les gens vivant avec le VIH et le SIDA. Nous sommes tous maintenant conscients que la qualité de vie de ces gens est nettement améliorée avec des thérapies antirétroviraux. Cependant, nous avons noté que la majorité des gens vivant avec ces maladies n'ont toujours pas d'accès aux antirétroviraux. Et ceux qui ont l'accès doivent faire avec des services qui ne sont pas compréhensifs et qui ne parle pas de questions de fertilité et de santé sur les gens, dans les gens avec traitement. Comment est-ce que les programmes ARV peuvent être rendus suffisamment compréhensifs pour qu'on commence à penser à des questions liées, surtout des questions qui touchent à la santé sexuelle et reproductive des gens vivant avec le VIH-SIDA? À quel niveau, à quel point est-ce que les programmes nationaux de traitement devraient considérer les besoins sexuels et de reproduction de leurs clients et clientes? Quels sont les côtés positifs, les bénéfices, si nous avons, on met tous ces services dans un paquet? Comment est-ce que nous pouvons assister ces gens-là pour que ces services soient assez compréhensive et qu'on ne soit pas obligé d'aller d'un point à l'autre à la recherche de différents services.
Je veux dire le même jour, parce qu'en fin de compte, je ne suis qu'une seule personne. Cependant, on s'attend à ce que j'aille à divers endroits, offrir divers services pour m'assurer que j'obtiens tous les soins dont j'ai besoin. Est-ce que cela c'est pratique? Nous avons vu des programmes, par exemple, qui voulaient dire que les gens qui vivent avec le VIH, et c'est là, surtout les femmes, au point A, je vais chercher mes antivirons. Ensuite, je me rends au point B pour traiter une infection. Ensuite, il faut que j'aille au point C, je dois aller me rendre à un planificateur familial pour voir s'il y a des services qui sont disponibles pour moi. Et ensuite, je me rends au point D, si j'ai un enfant, je dois obtenir le service pour m'assurer que mon enfant est sain. Et tout cela doit se produire le même jour. Est-ce que nous sommes justes lorsque nous avons des programmes qui nous forcent à des déplacements? Plusieurs d'entre nous, souvent, sont forcés à s'abstenir, à nous abstenir du sexe. Parfois, pas que vous êtes diagnostiqué, mais simplement parce que vous avez perdu un partenaire. Vous avez perdu vos désirs sexuels, la crainte de reprendre des maladies, la crainte de l'infection ou la culpabilité à cause de l'attitude des gens qui offrent des services à l'égard des gens qui vivent avec le VIH. Ceci rend les choses bien difficiles de poursuivre une vie sexuelle satisfaisante. Normalement, à cause de la nature des programmes, que ce soit des programmes VIH, etc., ou que ce soit des programmes de conseil sexuel et de service, les maladies transmises sexuellement vont souvent sans diagnostic, surtout pour les gens qui vivent avec le VIH, parce qu'on présume qu'ils ne sont pas supposés avoir du sexe. Par conséquent, ils sont supposés être libres de la plupart de ces infections. Cependant, le plus souvent, vous devez traiter avec certaines de ces infections sans beaucoup d'attention ou beaucoup d'appui. Et maintenant, pour la question de fertilité. Nous sommes toujours, bien sûr, découragés d'avoir des enfants après le diagnostic. Pour une certaine raison, nous allons infecter nos enfants. Alors, ceci ne tient pas compte du fait que nous avons très peu de contrôle sur notre fertilité et nos décisions que nous prenons avec nos enfants. Ce sont toujours les factures qui entrent en jeu, comme par exemple les communautés, les pressions d'avoir des enfants en dépit d'un statut. Alors, lorsque on bâtit, les femmes qui vivent avec le VIH et le SIDA sont souvent laissées à pour compte pour faire face à leurs défis avec aucune information préalable à comment empêcher la transmission du virus de la mère à l'enfant. Et les statistiques démontrent maintenant que seulement 10% des femmes, et surtout celles de l'Afrique subsaharienne, sont en mesure d'avoir la connaissance complète et l'accès de s'assurer qu'ils vont empêcher la transmission du virus à leurs enfants. Alors, quant à ce programme, le coût est toujours très cher. Surtout s'il n'y a pas d'appui financier. Alors ça veut dire que beaucoup de femmes qui ont le désir de continuer d'avoir des enfants et qui n'ont pas le VIH et le SIDA. Beaucoup de gens qui vivent avec le VIH et le SIDA se sont pleins de renseignements inadéquats pour leur permettre de prendre une décision éclairée et concernant leur fertilité. La question est la suivante. À qui se tourne-t-on lorsque ceux qui offrent des services qui, en principe, devraient nous donner les besoins, devraient offrir les soins, que ce soit en des attitudes négatives concernant les femmes qui vivent avec le VIH et le SIDA et qui désirent toujours avoir des enfants. L'accès, bien sûr, dans certains pays de l'Afrique subsaharienne est basé sur le fait si la femme est d'accord. Ça, c'est une violation des droits de la personne pour la femme qui vit avec le VIH, etc. Alors, vers qui se tourne-t-on pour résoudre ces problèmes? Comment traite-t-on avec les gens qui offrent les services qui insistent que l'accès au traitement antiviral, il faut que ce soit après que la femme soit stérilisée? Le plus souvent, on nous demande de prendre la décision et on ne laisse pas d'autre option que de faire ce que la personne qui offre le service propose et ce qu'ils pensent, eux, être mieux pour nous. D'autre part, enfin, ce qui est considéré comme illégal dans d'autres pays, l'accès à l'avortion, à l'avortement, c'est déjà un gros problème pour les gens qui vivent avec le VIH. Les contraceptifs d'urgence ne sont pas accessibles et pourtant, parfois, on a besoin de ce genre de service. L'accès aux tests, c'est une autre question que nous devons traiter. Et il y a tellement de contextes en Afrique qu'on trouve que plusieurs femmes dans leur âge de reproduction n'ont pas accès aux tests. Donc, elles tombent enceintes et elles apprennent qu'elles sont infectées lorsqu'elles sont enceintes. Et cela présente un dilemme. Par ailleurs, les femmes qui vivent avec le VIH ont besoin d'information pour les contraceptifs sécuritaires et d'information de comment le contraceptif peut réagir à d'autres médicaments. Qu'elles prennent par exemple les rétroviraux, les infections opportunistes. Face à ces questions, nous avons besoin de dialogue, comment développer et améliorer les politiques au niveau national, qui soient explicites sur l'inclusion des besoins de santé pour les gens qui vivent avec le VIH-SIDA et des engagements significatifs assez critiques pour les programmes nationaux, pour avoir de telles politiques. En conclusion, je veux dire que il est temps que nous agissions différemment. Nous avons un leadership engagé pour faire face à la réalité et la diversité de notre santé sexuelle et productive. Il faut combler l'écart entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Nous devons avoir l'imputabilité et aussi un échantillon de la part des intervenants et des organisations sur la façon, le moment et l'intervenant de qui nous demandons de l'action dans nos besoins de santé sexuelle. Et cela doit se faire le plus tôt possible. Merci beaucoup. Merci d'arrêter pour une intervention très bonne. Nous avons pensé que c'était important d'arrêter. Ceci à cause forcément de la santé, les besoins de santé de reproduction qui vivent avec le VIH, qui sont au centre de cet effort de se rassembler entre les communautés et ces domaines. Alors, je pense que Dorothée nous a montré de manière très claire à quel degré ces besoins, ces droits sont négligés et même niés. La demande qui sont faites pour l'action à changer cela. Et maintenant, nous aurons deux présentations. On va se concentrer sur des efforts d'intégration, le travail de VIH, avec des santé, des programmes de reproduction et des services que nous avons fait cela. Et le deuxième, qui va se concentrer en effort d'intégrer les services de santé dans le programme de VIH. Alors donc, j'ai le plaisir de vous présenter Nona, qui est une gynécologue africaine. Elle a travaillé dans le domaine du VIH-SIDA et de la santé et de reproduction depuis de nombreuses années. Elle travaille présentement dans la Fédération Planned Parenthood, qui est basée à Londres, sur le lien de la santé et reproduction, les programmes de SIDA. Elle veut que je le dise aussi qu'elle est une mère. Je pense que ici, nous toutes sentons le besoin de montrer notre passion dans ce domaine. Non pas parce que c'est quelque chose de nébulé, mais parce aussi que c'est quelque chose que nous sentons de très près dans nos cœurs. Alors, merci, Nona. Merci, merci Isabelle de cette présentation. Je veux simplement partager avec les collègues ici, les participants, ce que nous avons fait pour simplement amener à la vie à ce concept de l'intégration des services qui sont offerts d'une perspective ARV. à mesure que nous continuons à lutter pour l'intégration de nos services et d'essayer d'offrir soins complets, comme on l'a fait remarquer. Et seulement quelques exemples de ce que ça peut être et le fait que c'est en fait possible de faire ça. En PPF, plusieurs personnes savent que la PPF, c'est surtout un programme SRH qui se concentre sur la santé de reproduction, la question de pratique, la santé des adolescentes et aussi tout ce qui a trait à la maternité. Alors l'introduction d'une réponse à la réponse au VIH et le défi. Enfin, je pense que la reconnaissance du fait que l'accès au traitement pour le VIH a voulu dire qu'il y avait une demande accrue pour les problèmes SRH qui vivent avec le VIH. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde, à ce quoi tout le monde doit répondre. Et même en l'absence d'infection VIH, les femmes dans les pays de développement font face à des trésors de procréer, enfin des pressions de progrès. Nous voyons que de tels plaisirs n'existent plus, mais nous savons que sur le plan quotidien, c'est une réalité. Et à l'extérieur de la tradition et de la culture, il y a un besoin individuel de savoir si oui ou non vous pouvez avoir des enfants et que si vous avez un besoin, vous pouvez avoir ces choix. La découverte, cela fait partie de la vie de nos vies en ce moment. Et il y a des pays où l'épidémie, la chance d'avoir une relation risquée alors, sont très élevées. Alors il faut en traiter d'une façon pour faire avancer notre réponse. Alors lorsque on regarde des situations comme celle-ci, et cela vraiment, ça nous force à titre de personnes qui offrent des soins, à titre de personnes qui créent des politiques de santé, de répondre à ce, de relever ces défis, non en évitant le dialogue, mais plutôt en voyant ce qu'on peut faire sur le terrain et en collaboration avec des partenaires, des organisations pertinentes. Nous pensons que l'on peut trouver des raisons de besoin à répondre à ces besoins de relever les défis, étant donné les limites. On ne peut pas avoir l'intégration, si on n'a pas d'argent. Les gens en ont déjà parlé. Alors il faut trouver des façons dont nous pouvons faire partie de ce discours à un niveau international et de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour demander à nous, à ceux qui nous donnent. Alors donc avec nos partenaires, l'Association mondiale de santé, ONU-SIDA, cette structure a été développée. Et à mesure que la structure a été mise en place et devenue quelque chose de concret, nous avons déterminé comment nous, dans le cadre de nos problèmes à l'IPPF, nous pouvions en faire une réalité. Nous savions qu'il fallait répondre au fait que les gens qui vivent avec le VIH ne sont pas un groupe homogène. Dans cette conférence, nous avons des populations vulnérables, des hommes qui vivent, qui ont du sexe avec des hommes, des gens qui injectent la drogue, des gens qui travaillent dans le sexe, et tous ces gens-là ont des droits. Nous avons tous des droits, peu importe comment on s'identifie, et on doit répondre à cette institution. Alors, vous devez déterminer des questions de l'introduction des entrées des rétroviraux. Et cela n'est pas venu. Et c'est venu un coup. Et aujourd'hui, nous sommes venus un coup et nous sommes fiers du fait que nous sommes des femmes, que nous sommes prêts et qu'il y a une poignée de gens avec les PPF qui croient que c'était la bonne chose à faire et qui sont prêts à se tenir derrière cette conviction. Alors donc, nous avons lancé des programmes que nous organisons. En fait, je vous donne, avec certaines secondes, je vous donne deux exemples de ce que nous faisons au Kenya et en Colombie. Alors, ce sont deux différents aspects de cette démarche intégrée. Dans la clinique des options de santé familiale, nous avons fait du travail avec ceux qui offrent des services de santé pour voir ce que nous pouvions faire pour introduire des soins VIH dans nos cliniques qui sont en principe des cliniques de planification familiale. Nous avons des rencontres d'intervenantes. Nous avons négocié avec le ministère de Nairobi pour nous inclure dans la réponse au VIH dans ce pays-là. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de clients qui viennent à notre clinique qui recherchent des soins et qui sont contents du fait que nous puissions offrir ce genre de soins complets. Ce sont des clients qui sont venus, des clients qui ont été traités au niveau, enfin qui ont eu le test. Nous n'avons pas dupliqué. Nous avons pris les directives du ministère, les protocoles de test, Et nous avons éliminé ce qu'il y avait dans les protocoles aux clients que nous desservons. Alors aujourd'hui, nous avons des femmes qui viennent pour obtenir des soins que nous offrons et qui sont dans le programme PMCT. Et grâce à la communauté, c'est Jean qui distribue, qui traditionnellement donne de la planification féminine. Nous avons formé ces gens-là à faire du VIH, ASSC, BCC, de relier, d'aiguiller les gens avec des réseaux de disposition et de soins dans la communauté. Nous avons un bon nombre de clients qui travaillent avec des antirétroviraux. Les chiffres sont petits pour nous parce que les clients qui travaillent dans nos facilités, dans nos installations, ne sont pas qualifiés pour les antirétroviraux parce qu'elles sont des femmes en santé qui ne connaissent pas leur statut, qui en fait ne répondent pas aux critères en fonction des soins antirétroviraux. Mais je suis heureux de dire que avec l'équipe de gens qui offrent les soins à Nairobi, des gens qui sont ici aujourd'hui, nous avons réussi à amener le ministre de la Santé de Nairobi de donner les services antirétroviraux pour gratuitement parce que nous n'avons pas cet argent pour offrir ce service. Mais nous le faisons maintenant parce que nous savons que nous pouvons référer les clients mais aux hôpitaux du ministère de la Santé où ils peuvent venir dans nos cliniques dans un contexte en douceur. Nos infirmiers ont été formés. En fait, on nous a demandé d'offrir une formation accrue aux gens qui travaillent dans le secteur public de santé dans la région de Nairobi. Et nous devons faire cet investissement. Ce n'est pas bon marché pour une institution qui ne fait pas d'habitude de soins VIH. Nous avons ces chiffres maintenant et nous avons confiance que nos clients obtiennent les soins parce que nous savons que nous ne sommes pas les seuls à offrir les soins. Ils peuvent aller ailleurs pour obtenir des soins. Et un autre exemple, c'est le travail que nous avons fait en Colombie. Là où nous avons poussé ceux qui offrent des soins au sein de l'EPPF pour penser latéralement, pour sortir de la boîte. Nous traitons avec des groupes en folie par exemple, des gens qui travaillent dans les prisons, qui travaillent dans l'armée de l'air, des gens qui passent beaucoup d'heures en compagnie d'autres hommes et qui ne sont pas dans leur environnement. Nous travaillons avec des hommes gays, nous travaillons avec des hommes qui ont du sexe, avec des hommes qui ne s'identifient pas ouvertement à comme tel. Alors, ce sont des hommes qui ont du sexe avec des hommes, mais qui sont mariés, par exemple. Alors, nous traitons avec les besoins des partenaires de ces hommes. Mais nous avons formé des infirmiers dans les cliniques pour traiter des questions de sexualité diverse. Et par exemple, voici ce que nous avons obtenu comme commentaire, c'est que parce qu'il y avait une volonté d'aller au-delà, de penser aux besoins des gens qui traditionnellement ne viennent pas dans des associations de planification familiale, de leur faire participer, de respecter leurs droits qui sont humains, mais qui sont aussi exclusifs. Alors ça, c'est inclusif. Ça, c'est la réaction que vous obtenez lorsque vous sortez de votre zone de confort et vous travaillez avec des gens avec lesquels vous ne travaillez pas normalement, tel que défini dans l'âge. Alors, qu'est-ce que l'on veut réaliser? Nous voulons penser d'une façon holistique. Dans la mesure où on veut pousser nos infirmiers à inclure les ARV, on ne dit pas qu'il y aura une solution au problème de tous, mais au moins, si on ne peut pas offrir les soins, on ne pouvons les référer. Et nous allons savoir quoi faire avec les questions de répondre à ce à quoi nous faisons face dans le travail quotidien que nous faisons. Nous pensons que dans l'intégration, nous avons déjà résolu le problème de la stigmatisation parce que lorsque les gens ont confiance, lorsque les gens savent quoi faire, alors c'est facile, cela améliore les relations entre ceux qui offrent les soins et avec les clients au sein de la communauté. Nous sommes heureux d'avoir participé à l'influence de certains discours au niveau international. Le Fonds mondial, maintenant, dans sa manche 6, va étudier l'inclusion des interventions SRH pour les pays qui demandent de l'appui. Et ça, c'est un changement. Nous savons que le Fonds mondial a dû être poussé, comme par exemple les systèmes de santé comme les MNI, les CCM, qui ont tendance à amener à la participation de la société civile. Mais ça, c'est un pas dans la bonne direction. C'est une reconnaissance que les SRH, ce sont deux simplement deux côtés de la même pièce de monnaie, la raison dont le voyons. Si nous continuons à lutter pour nous assurer que ce à quoi nous croyons, que tout le monde a un droit et que ces droits doivent être respectés, c'est la chance de monde auquel nous pouvons aspirer de participer. Que les gens qui soient séropositifs, séronégatifs, qu'ils ont d'autres pratiques sexuelles que nous acceptons plus ou moins, ils ont un droit de répondre à leurs besoins pour être un parent, pour être un père, une mère, ou peu importe ce qu'ils veulent, enfin ces droits qu'ils veulent réaliser. Et je pense que nous avons une responsabilité à titre de personnes qui, de travailleurs de la santé. Et j'espère que nous pouvons maintenant lutter pour avoir cet idéal. Merci. Merci, Nona. Je pense que nous sommes particulièrement reconnaissants de nous avoir donné les résultats de ces projets très innovateurs. Celui qui est mené par l'Association de planification familiale de Kenya et l'autre par Profamilia, qui, au moment où ils ont commencé, aurait été une étape vraiment très très importante. Ils ont montré que cela pourrait être fait, mais le défi, comme Nona nous l'a présenté, c'est d'émuler ces projets dans d'autres endroits. Alors maintenant, je vais demander à Javier. Javier Rocal, Bullock, et le représentant régional l'action VIH en Amérique du Sud et au Caraïbes. Javier est un activiste depuis longtemps dans le domaine du VIH-Sida, mais il est aussi, et je sais qu'il est très engagé dans ces questions concernant les droits de reproduction sexuelle. Merci. Merci, Elisabeth. Alors, je vais essayer de vous présenter essentiellement les contributions de VIH à l'ordre du jour, très rapide, une introduction sur la façon dont l'Alliance fonctionne, l'Alliance internationale, et vous donner des idées proactives auxquelles nous avons pensé à titre de partenaire. À partir du début, nous avons constaté que les groupes communautaires locaux doivent avoir accès dans leur propre pays aux ressources et à l'assistance technique dont les gens locaux ont besoin, des réseaux qui leur permettent d'apprendre et d'influencer leurs pairs. Au cours des 12 dernières années, l'Alliance a changé et s'est adaptée aux besoins de la communauté, comme vous le voyez. Nous avons changé la démarche, la méthode, dans la façon dont nous fonctionnons avec nos partenaires. Le travail avec plus de 1500 CBO, c'est de plus de 40 pays, 70% de ces CBO n'ont jamais travaillé dans le cadre du SIDA et sont venus travailler comme partenaires dans l'Alliance VIH et avec 25 liens avec des organisations dans divers pays. Et nous sommes aussi bien connus à titre au niveau d'offrir enfin des outils pour appuyer les processus, même avec des organisations qui ne sont pas officiellement des partenaires lorsqu'ils travaillent avec l'Alliance. Par conséquent, les directions stratégiques qui guident nos démarches, c'est-à-dire la couverture du travail communautaire en ce qui concerne ce qu'elle a, de renforcer la société civile et bien sûr le développement d'organisations de familles avec plus de 25 organismes et de créer un réseau qui fait partie de l'Alliance VIH-SIDA. Au cours des 11 années, la conférence internationale de développement a identifié des services comme étant les clés à une réponse efficace au VIH, mais que la séparation de ce secteur est demeurée. Alors, en dépit de la commission de points communs, les occasions de maximiser une démarche optimisée ont échoué. Alors donc, on a besoin d'une démarche, bien que la majorité des infections VIH sont associées, sont transmises sexuellement. Ouais, c'est un impératif moral dans les services pour ceux qui s'engagent, qui dans une façon plus constructive. En fonction, ce ne sont pas tous les chiffres, mais ici, vous voyez des tendances concernant les dépenses des activités de type 4 qui, en fait, ces chiffres n'incluent pas lutte contre, aussi, il y a aussi la lutte contre le mal qui, bien sûr, appuie ces tendances. Et avec ceci en tête, on peut se rendre compte le pouvoir des politiques d'appui VIH et de reproduction peuvent avoir. Dans bon nombre de pays à haute prévalence, à 67% d'être infectés existent, bien que les pays à haute prévalence, comme la Guyane, par exemple, où le taux de prévalence est 2,7%, c'est probablement d'attraper le VIH entre l'âge de 15 et 50 ans, fait 19%. Et dans le cas de l'Amérique latine, dans la région aussi, dans l'Amérique centrale, un jeune homme qui a du sexe avec un autre homme, il a 22 à 23% de probabilité d'attraper le sida dans les 10 années suivantes de sa vie sexuelle. Des choses peuvent être reliées aux besoins de ces jeunes gens que de réduire ces risques. Alors, donc, essentiellement, nous avons travaillé pour avoir une société plus efficace parce que ces diverses agences ont pas beaucoup de personnel et de capacités de traiter. Elles ont pas l'expérience de travailler les ONG, de garder les groupes de population dans des groupes avec un manque de compréhension de comment déterminer la réponse à la société civile. Alors ceci, les agences de déboursement pour promouvoir les gens qui vivent avec le VIH et qui sont touchés par le sida, et les récipiendaires de la société civile doivent s'engager dans ces processus d'établir la planification et de la prestation de développement. Et bien sûr, c'est une question de société civile, de coordination au niveau national. Les pays qui prioritisent et qui ne réussissent pas avec la demande de renouveler le financement et d'offrir aux ONG, et ça, c'est très lent. Alors, essentiellement, là où la plupart de la société civile, là, les agences se concentrent sur l'appui de la société civile pour devenir plus efficace. Et parfois, il n'y a pas suffisamment de temps pour, en ce qui concerne la capacité et sans résultat. Alors que la capacité a été constamment reconnue, il n'y a pas de preuve que la réponse autre que le processus de sélection pour les récipiendaires des ONG internationaux. Alors, nous avons une très brève expérience de comment nous travaillons au niveau sur le terrain et nous essayons d'intégrer la méthode. Essentiellement, nous travaillons dans la majorité de nos pays et cela appuie ce que nous appelons les populations clés, les travailleurs sexuels, les hommes qui ont du sexe avec des hommes, les gens qui vivent avec le VIH. Et bien sûr, nous appuyons le travail et les gens qui s'engagent au niveau de l'environnement et d'accroître la capacité pour de mener la réponse. Nous avons aussi une expérience en Zambie où, essentiellement, en ce qui concerne les jeunes gens, c'est un bon exemple de santé, de reproduction sexuelle et de travail de VIH sur le terrain, là où nous nous concentrons sur des jeunes gens qui sont identifiés à cause de leur vulnérabilité dans une participation multisectorielle où on utilise diverses méthodes, les médias locaux, notamment la radio. Et bien sûr, nous avons cette réflexion à savoir comment la démarche peut être réduite lorsque nous approchons nos collègues pour parler du VIH-SIDA.
Voilà. Je pense que la première présentation a très bien parlé de cette question. Par conséquent, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, même si c'est un des sujets qui m'intéresse fort. Mais parlant de l'intégration de la santé reproductive, bien sûr, beaucoup de gens ont déjà montré, et il y a eu des rapports, que si on utilise davantage de préservatifs, si il y a moyen de faire baisser le nombre de jeunes enceintes, etc. Mais ça dépend beaucoup du travail au niveau du site. Aussi, pour vous mentionner une étude d'une expérience dans l'Équateur où on a parlé avec des travailleuses, travailleurs du sexe. Et là, on a formé un organisme pour former un centre de des besoins de reproduction et sexuels. Ces gens-là travaillent dans la moitié de l'Équateur. Et ils ont au moment actuel plus de 25 cliniques. Et ils tâchent de les rendre plus amicales à ces populations vulnérables qui pourront les utiliser. Un des exemples intéressants, c'est justement le défi d'avoir des travailleurs de sexe ou même des transsexuels dans les salles d'attente, dans une de ces cliniques, qui, bien sûr, dû à l'approche qu'elles avaient, parce que vous savez, en Amérique latine, les cliniques ont d'autres cibles dans la population comme clients d'habitude. Mais les réactions dernièrement ont été positives. Dans des villes très conservatrices, ces cliniques deviennent même un endroit en sécurité pour les gens atteints de VIH et SIDA qui rencontrent ailleurs de la discrimination. Il y a aussi un travail très intéressant quant à la politique au niveau national et au niveau du site où nous avons beaucoup travaillé du côté des avocats pour que tous les tests liés à la maternité pour les femmes soient disponibles également aux travailleuses de sexe. Par exemple, les travailleuses de sexe n'avaient pas accès à certains de ces services dans l'Équateur. Et ça, c'était justement le résultat de travail de concert. Alors, pour rentrer à l'heure du jour, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau international. Vous connaissez très bien les cibles. Et pour les questions familiales et la reproduction sexuelle, etc. Et le défi, c'est justement qu'il faudrait convaincre des gens à faire continuer à venir l'argent pour aider ce monde. J'ai tâché d'aller très rapidement, parlant d'un ordre du jour très fondamental sur le sida, et je pense que cette approche mixte dans les deux sites a besoin d'une organisation croyable et faisable au niveau international très rapidement. Avant de terminer, je voudrais parler de comment moi je vois, de ma façon proactive, comment je considère ce partenariat qui est un partenariat au niveau local, régional et aussi mondial. Comme j'ai dit, en me basant sur mes expériences dans l'Équateur, nous avons une occasion de travailler dans une clinique avec les groupes clés, avec les MSM, avec les travailleuses de sexe, les gens qui vivent avec le VIH-SIDA, et être avocat pour eux. Il y a beaucoup de formation qui a lieu et il y a du travail de déstigmatisation avec le secteur privé, etc. Et bien sûr, au niveau de la communauté, cela rend ces cliniques plus amicales à une population vulnérable. Et ça, c'est un processus. Nous avons quelques exemples de cela et nous avons également quelques défis. Bien sûr, certains des défis pour notre mouvement doivent voir se créer une approche pour qu'il soit durable de par soi. J'ai vu des femmes qui attendaient, n'est-ce pas, avec d'autres hommes qui sont normalement les cibles dans ces cliniques. Et bien sûr, il faudrait faire augmenter les effectifs dans les deux programmes. Je pense au niveau régional, c'est fondamentalement une affaire de comment nous travaillons ensemble. Et alors, est-ce qu'on fait des ateliers? Comment faire bouger le travail de création de politique? Il faudrait quand même mettre l'emphase sur le fait de créer des cibles nationales aussi rapidement que possible, aussi une collaboration sud à sud, et parler coopération, défis au niveau régional, différentes dynamiques qui existent, des différentes façons de faire un réseautage entre le mouvement SIDA et au niveau régional. Alors, fondamentalement, au niveau international, nous connaissons très bien les défis. Nous savons bien entendu les sources, mais on a besoin d'avoir davantage de ressources pour travailler ensemble. Nous connaissons quelques-uns des leaders dans les mouvements, les deux mouvements, pour qu'on puisse avoir à et garder ce dialogue significatif à tout niveau. Je crois que cette session est une contribution clé sur cette question. Et bien sûr, lorsque vous pensons qu'il y a 11 ou 12 ans, on parlait et on disait que l'intégration est stratégique et tout ça, c'était justement ça. C'est très important. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci, Javier. Je crois que c'était là une présentation très riche en construisant sur l'approche que championne l'Alliance avec les communautés, de travailler de par les partenariats. Cela vous a fait voir comment on ne voit pas là où on marie les deux côtés ensemble. Alors, maintenant, j'aimerais appeler Lynn au micro pour qu'elle nous raconte un peu quelque chose sur les défis dans l'arène de la politique, défis auxquels nous faisons face en faisant nos efforts pour intégrer ces deux dimensions. Lynn, je la connais si bien. Lynn Collins travaille avec le Fonds de population de l'ONU à New York. Elle a vraiment été championne de cette question depuis très longtemps. Et je peux vous dire, elle ne se rend pas. Mais j'ai abandonné une chose. Non, c'est vrai, je voulais être chanteuse, mais j'avais très peur des micros. Alors, oui. De toute façon, alors j'ai 7 minutes, on m'a dit, pour parler de politiquement, de politique, de fond. Alors, je ne sais pas si je pourrais faire sortir tous les mots si rapidement. Peut-être dans cette section, on devrait avoir comme titre « Chercher dans le noir ». Pour donner un contexte sexuel, mais pour parler des liens, c'est plutôt déprimant. Nous avons des difficultés dans la base des preuves, base cachée. On a beaucoup dit de ce qui va arriver. On a dit qu'on va réduire la stigmatisation, on va faire venir des services dans la santé sexuelle et de reproduction pour ceux qui ne les ont pas encore, on va être plus efficace, on va donner ça à des groupes tels que les travailleurs de sexe, mais il ne semble pas qu'on ait les preuves. Il y a quelques-uns qui disent que c'est parce qu'on n'a pas encore en place assez de programmation. On a eu des exemples très bien jusqu'à présent. L'autre domaine où on n'est pas à la hauteur, et ça on l'entend chaque fois de la communauté, c'est que nous n'avons pas dans nos recherches sur ces questions, nous n'avons pas les guides et la direction qu'on aurait souhaité. Alors, De façon paradoxale, même quand on avait cette évidence, ça ne semble pas que ce soit suffisant. Est-ce que vous avez entendu, levez la main, si vous avez entendu parler de la GRIAL, Call to Action, l'appel à l'action GRIAL? Alors, il y avait une fois, il y a 2 ans, dans une petite ville de Suisse, Lyon. Merci Kevin pour ce site. On a mis ensemble quelques gens de l'unité sur la reproduction sexuelle et le sida. Et on voulait savoir comment ensemble faire quelque chose de vrai pour les programmes de mère et de transmission sexuelle. Alors, on a compris qu'il fallait faire de la prévention primaire et aussi éduquer les mères. Nous avons des preuves d'analyse des coûts et tout, mais pourtant, on est bloqué. On voit que c'est moins de 10% avec lequel est couvert ce groupe de gens. Peut-être qu'il y a un problème à lier ensemble de très beaux bébés avec la santé sexuelle et reproductive. Mais malgré le manque de preuves, il y a quelque chose qui pousse à l'action. On ne peut pas attendre les preuves basées sur l'évidence, malheureusement. Et quoi faire des fonds? Nous voulons toujours dire que la communauté internationale accepte le lien entre les deux communautés. On a fait appel à l'engagement et aussi on a fait une déclaration politique autour du UNDAS Review. Mais ça semble ne pas être assez. Si on compare le risque et la réalité, il semble être un peu de tension entre parties pour ce qu'il en est de l'argent. Alors, il y a cette épidémie et il y a beaucoup de tensions qu'il nous faut résoudre encore. On nous répond très souvent qu'on ne donne pas de l'argent pour les programmes pour femmes. On ne parle pas de violence basée sur le genre, l'inégalité des genres. On ne parle même pas du préservatif pour femmes, ce qui est bien ridicule. Nous n'appuyons pas de façon efficace le développement des microbicides, surtout les microbicides qui vont... c'est pas la bonne chose à faire lorsqu'on veut avoir un enfant si on porte un préservatif féminin. Encore une fois, dans les plans, on lit pas les choses. Si vous regardez un programme de santé sexuelle et de reproduction, il ne pose pas le problème de la ségrégation des récentes mères avec leurs bébés qui vivent toutes dans une salle à part. On ne considère pas le contexte mêlé de tout. Il y a beaucoup de questions de réforme de la santé, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Je dirais encore une fois qu'il y a des signes d'encouragement, de coopération entre ministères de santé et groupes nationaux, mais nous avons encore des enjeux de programmation verticale. Alors, toute la question des droits, on a fait une session sur cela avant, d'ailleurs, celle-ci. On aimerait penser qu'on a tous la même perspective sur cette question des droits, mais ce n'est pas le cas. Je ne fais que mentionner quelques domaines de contention. Si on considère la question des droits des femmes VIH-SIDA, d'avoir une vie sexuelle, d'avoir des enfants, ça semble être des questions fondamentales, mais cela n'est pas le cas. Il y a des cas où on leur a dit à ces femmes de ne pas avoir des bébés de ne pas transmettre leur infection. Et parfois, on leur donne trop de conseils dans les bureaux de planification de famille. Ici, on va tôt ou tard devoir travailler de par les droits, parce que c'est là où nous trouvons un certain respect pour tout le monde. Ce qui est impératif de faire quant à la politique, c'est ces nécessités de politique dont on parle très souvent pas, mais on ne peut maintenant faire des remplacer certaines politiques au niveau de la clinique. Il faut faire beaucoup plus parce que les jeunes doivent avoir un accès à tous les outils qui empêchent de tomber enceinte, empêchent de contracter l'infection. Alors, quels sont les chiffres dont on a besoin? Même chose pour les femmes que pour les jeunes gens. Alors, les groupes vulnérables, j'utiliserai un exemple. Quelqu'un qui rentre chez vous et demande des services. Vous voulez demander sur l'activité sexuelle. Ça prend 5 mots pour dire actif sexuellement avec femme, homme ou les deux. Et ça va aider à faire entrer dans l'ensemble les problèmes de quelques-uns des hommes MSM. C'est un désastre pour la population hétérosexuelle, mais il faut être réaliste sur ce que nous faisons. Il faut toucher aussi les groupes vulnérables, plus vulnérables. Et en dernier lieu, j'aimerais penser que nous pouvons également trouver un terrain en commun quant à être avocat. Et un exemple parlant de violence basée sur le genre. Le mariage des enfants. C'est un mariage où il y a un risque accru de transmission de VIH. On a considéré que c'est un abus sexuel et autres, exploitation des enfants. Très souvent, les hommes plus âgés ont tendance à être plus affectés lorsque leurs partenaires sont très très jeunes, leurs femmes. Il y a beaucoup de pression, très souvent, de faire des enfants très très tôt dans le mariage, et tout cela équivaut danger de transmission du sida. Et je suppose qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire à l'avenir. Vous vous rappelez peut-être, quelques-uns de vous, l'époque de Marxist. Et alors, un slogan de l'époque, c'était justement que la lutte continue. Alors, Lynn ne se rend pas. Merci de quelque chose de très compréhensif et très franc aussi. Nous ne voulons pas sous-estimer quelques-uns des enjeux d'opération et qui sont techniques, mais on croit que c'est plutôt la politique sur des questions structurelles qui est ce qui bloque les mécanismes de progrès. Et je crois que ça s'empire plutôt que de s'améliorer. Mais de toute façon, considérons maintenant ce que c'est que nos connaissances dans ces domaines et comment est-ce que nous pouvons faire des progrès en construisant sur ces connaissances. Naomi Rutenberg maintenant, qui est auprès du Population Council et qui est directrice du Operations Research Program au Horizons Council. Elle a fait beaucoup de recherches sur la santé de reproduction et ses liens avec le VIH depuis beaucoup d'années. Bon après-midi, j'aimerais remercier les organisateurs du panel pour avoir voulu inclure mes recherches. Peut-être que c'est une sous-catégorie des liens dont que j'ai vu pendant toute la journée. J'ai une question. Est-ce que nous pouvons mieux desservir les besoins plutôt que d'autres sortes, d'autres combinaisons de services? Quelles sont les configurations de services qui répondent le plus aux services et quelles sont les plus praticables? Il faut savoir aussi si nos systèmes de santé peuvent faire ce qu'ils disent de pouvoir faire. Ouais, on le décrit un peu partout, mais comme Andy l'a dit, notre évidence en documentation est là. Alors, avoir ces connaissances, c'est essentiel pour qu'on puisse se grandir. On a besoin, pour être avocat, pour générer les ressources et pour donner des résultats d'intégration. Et nous avons également un modèle de service qui peut être répliqué rapidement, de façon continuelle, dans beaucoup d'endroits différents. J'ai très vite recherché... J'ai commencé avec la santé sexuelle et de reproduction, mais ça m'a rien donné. Ensuite, j'ai considéré deux endroits repositaires de choses, mais où on pouvait lire aussi quelques explications. Alors, ici, à gauche, vous voyez quelque chose qui vient de l'Université Johns Hopkins. J'ai trouvé 160 documents de recherche dans cet endroit, 42 sur la santé de reproduction et 38 de ces 40 sur et le sida et la compagnie en question. Et nous, parfois, on écoute en résumé les programmes, mais il y a très peu qui y va en lieu finalement. J'aime aussi ce que c'est que la ligne vers le haut. C'est votre lien à la littérature mondiale sur la santé de reproduction. 6 études, c'est ce que j'ai trouvé. 5 des 6 venaient d'un article, d'article dans un journal avec pour titre « La santé du public nous coûte tous ». Je crois que les preuves sont sûres. Alors, j'ai mis ensemble, moi, pour cette présentation d'aujourd'hui, des paramètres très simples de recherche, avec 4 dimensions. La première de ces dimensions, c'est ce que j'appelle le besoin ou le besoin non asservi. Quel est le niveau de besoin d'intégration de services? Quels sont les renseignements, les évidences que nous avons jusqu'à présent? Ensuite, je mentionne l'homme. Quels sont les genres de services intégrés que voulaient les gens pour desservir les besoins des gens avec le VIH? Alors, quand est-ce qu'ils les veulent, où et pour qui? Autre dimension, c'est quelle est la disponibilité et est-ce qu'il y a assez à fournir? Et finalement, qui est celui qui donne de la validation à nos choix? Nous allons parler donc des types de recherches qui font cela. Et pour donner quelques exemples, alors, besoins et besoins non qui ne trouvent pas de réponse. On regarde cela surtout dans des révisions de politique. Et il y a, par exemple, une documentation assez générale, par exemple, sur les femmes qui ne peuvent pas devenir enceintes. Quelques articles dans le journal Reproductive Health Matters. Il y a des gens qui disent qu'il y a des efficacités lorsqu'il y a des services intégrés de façon verticale. Ça, c'est Askew et Berer qui le disent. Il y a plusieurs modèles qui regardent l'impact potentiel des services de planification de famille sur la prévention du VIH et ses résultats. Voilà comment la planification peut bloquer l'infection dans les enfants et quelle est l'efficacité quant au coût si on compare à d'autres interventions contre la transmission. Et puis ensuite, vous avez des descriptions de femmes qui sont tombées enceintes sans le vouloir, en Afrique de l'Est, par exemple, où il y a plus de 50% des femmes enceintes, une cohorte de femmes vivant avec le VIH qui ont participé dans une étude où elles étaient enceintes sans le vouloir. Et nous trouvons aussi beaucoup d'études quantitatives et qualitatives. Il y en a pas mal, mais ça varie beaucoup. C'est petit, c'est grand, c'est un peu partout. Et vous avez également des études d'intervention qui font un test de toutes sortes d'interventions et d'intégrations. La planification interfamiliale, tout ça, et considèrent la demande pour ce genre de service. Je viens de faire une révision systématique de toute la littérature disponible sur comment le VIH a un effet sur les intentions de reproduction et le comportement des hommes et des femmes qui vivent avec le VIH. Nous avons identifié 208 articles qui avaient quelque chose de semblable dans les titres ou les mots-clés. Et à la fin, finalement, on a mis l'emphase sur 77 de ces articles parce que beaucoup d'autres étaient des énoncés de politique ou étaient très générales ou ne remplissaient pas nos critères. Donc, 65 de quantitatifs, 22 de qualitatifs, ça vient et de pays développés et de pays en voie de développement. On les a classifiés selon les résultats dont ils parlent, donc femmes enceintes ou pas, avortement, on leur a donné des couleurs selon leurs résultats. S'il y a des preuves très fortes, c'est le vert. S'il y a un consensus parmi ceux qui ont fait l'étude. Et alors là, si on voudrait avoir une conclusion un peu forcée, c'était le rouge. Il y a un nombre d'études. Le rouge, c'est lorsque il y a des preuves vraiment qui sont en conflit. Et le noir, c'est pour lorsque on n'en parle pas en particulier de quoi que ce soit. Je voulais tout simplement mentionner que dans quelques-uns de ces domaines, s'il y a des preuves et des recherches et des intentions sur l'infertilité dans des pays en voie de développement, ce qu'on a trouvé dans ce contexte, dans les femmes qui vivent avec le VIH, c'est la même chose que chez les femmes qui vivent dans des pays qui n'ont pas le problème. Les normes autour d'avoir des enfants ou pas dominaient le fait d'avoir le virus ou pas.
L'autre chose aussi qui était forte, c'est le fait que l'avortement dans les pays développés, ça c'est fait l'objet de médiation par l'introduction de Hart, que au début, il y avait un accroissement d'avortements parmi les femmes qui vivaient en fait dans les pays développés avec l'accès d'avortements. Et c'était introduit en fait. Et les taux ont été réduits comme les femmes qui ne vivaient pas avec le VIH. Alors, la dimension suivante au niveau de la disponibilité des services, les situations d'analyse et maintenant les recherches, et ça démontre qu'il y a une bonne quantité de cela. Si vous regardez les diapositives, nous avons utilisé les directives, comme par exemple la planification familiale et l'ART, et on démontre qu'est-ce qui se passe dans des environnements. Il y en a un Ghana, l'autre en Ouganda, l'autre en Inde. Les perspectives des travailleurs dans l'intégration, comme par exemple la double protection, les expériences sur le terrain avec la planification familiale, PMTCT, les dispositions de planification familiale, les VCT, les dispositions par ceux qui offrent des services. Alors, mais en aucun cas, c'est une liste complète, mais c'est simplement pas le bout de la banquise. Enfin, il y a toutes sortes de cliniques qui ont démontré qu'ils sont répartis. C'est la même chose pour l'utilisation des services intégrés. Ça, c'est basé surtout dans des populations qui sont en comportement, qu'est-ce qu'ils font. Alors, encore là, vous avez plusieurs combinaisons de planification par le PMCT, les familles qui sont prises par le VCT, ART, comme HSR, et comme nous le voyons ici, et etc. Alors, La dernière chose dont je veux parler, c'est de combler l'écart. Et je pense que des écarts très importants sont sur le côté de la voix du consommateur, surtout les hommes qui sont VIH, et surtout au niveau de la santé de reproduction. Il y a deux directions. Alors, effectivement, nous avons plus d'informations de la part des gens qui vivent avec le VIH sur la demande pour les services de reproduction, mais moins de l'autre côté. Il y a quelques années, l'intégration des STI et le VIH, la planification plan familiale, c'était vraiment la tendance. Mais certaines des interventions n'étaient pas efficaces. Et cela a pratiquement refroidi au moment où nous avons étudié les questions et voyons quelles étaient les occasions. Alors, il y a tellement de choses à accomplir au niveau des politiques, des systèmes de santé, et quelles sont les structures qui sont nécessaires au niveau des comités directeurs de la santé jusqu'au niveau de la prestation des services, et quelles sont les directives, comme l'a mentionné l'État, qui sont nécessaires à l'intégration, et quelles sont les efficacités. Alors, nous avons besoin des opérations, des recherches, des prestations de services, surtout au niveau de ceux qui offrent les services pour offrir des services intégrés pour traiter leurs propres valeurs et de traiter leurs propres demandes et des questions de clinique. Il y a aussi ce que les clients exigent et ce qui a été présenté par d'autres conférences aujourd'hui, ce qui est confortable pour les clients et qui n'est pas déroutant pour les clients. L'impact de l'évaluation au niveau des services intégrés à court et long terme et les résultats. Est-ce que cela vient? Est-ce qu'ils adaptent des comportements qui peuvent contribuer à répondre aux besoins de reproduction sexuelle? Est-ce que ça a des répercussions à plus long terme, comme par exemple la réduction de grossesse non désirée, la réduction des infections VIH et STR? Alors, nous avons fait plus de recherches. Il y a plusieurs environnements, des environnements géographiques, des divisions au sein des règles, alors, qui ne sont pas réglées du tout. Alors, toutes sortes de populations. Alors, notamment, les travailleurs sexuels, les hommes qui ont du sexe, et surtout les femmes qui sont laissées pour compte dans nos études qui n'ont pas été, ça n'a pas été traité. Merci. Merci, Naomi. Nous avoir guidé dans cette révision très complète de la preuve, comme on l'a fait remarquer, ce n'est pas très fort, mais il faut continuer à essayer de combler l'écart. Nous devons avoir cette information, comme Naomi l'a dit, au niveau de l'intervention de mobilisation des ressources pour guider des programmes conçus et aussi la prestation des services. Nous avons du temps pour avoir des questions. Maintenant, ceux d'entre vous qui devaient partir, je vais prendre des documents dont nous avons parlé. Alors, c'est Nona qui a parlé de la structure que nous avons élaborée et aussi un inventaire des outils qui peuvent guider le travail dans ce domaine. Y a-t-il des observations, des questions pour les conférenciers? S'il y a quelqu'un, veuillez vous présenter au microphone. Allez-y. Oui. Merci beaucoup. Je m'appelle Jack Amasso de Kenya. Bon, je voulais simplement faire une observation que lorsque l'on vient à l'intégration du VIH et SRH, un grand obstacle que nous avons, c'est les donateurs, je crois qu'il a dit, en dépit de ce désir très clair exprimé par Dorothée aujourd'hui, que les gens qui vivent avec le VIH ont besoin de services SRH. Les donateurs ne sont pas très enthousiastes à financer des programmes qui vont offrir des deux services. Nous savons cela au cours des dernières années, environ il y a 5 ans environ, les politiques ont changé, que les cliniques de reproduction ont été fermées et ça a commencé à lancer de nouvelles cliniques qui offrent des soins VIH. Ceci n'augure pas bien pour l'intégration. Et même à cette quand la preuve continue de s'accumuler, on ne voit pas de changement dans ces politiques. Je pense que on devrait, le Conseil, c'est que nous devons changer certaines des politiques de l'intérieur pour adopter l'intégration de façon à ce que nous puissions offrir des services. Je pense que le problème n'est pas avec ceux qui offrent les services. Je pense que ça peut être une question de services au VIH ainsi que les services FP. Mais lorsque les donateurs nous disent que mon argent ne devrait pas être utilisé pour ordonner un condom, que vous pouvez l'utiliser ART. Alors, mais qu'est-ce que cela fait? Alors, dans quelle position ça devient très difficile. Merci de cette observation. Je pense que nous allons prendre quelques questions. Ensuite, nous allons demander au conférencier de répondre. Alors, est-ce que ça, c'est quelqu'un que je connais? Oui. Oui, c'est Thierry. Oui. Bah, ça, c'est une observation. Merci de votre présentation. Merci. C'est vraiment très bien. Mais je voulais simplement dire que, en Inde, il y a une langue différente concernant cette question. En partie, c'est que on doit traiter des recherches concernant la meilleure façon de relier les CRS chez les CRVVH dans les quatre états de l'Inde. Bon, on l'appelle pas l'intégration. En Inde, on appelle ça de convergence. Je pense que ce libellé peut être très utile parce que cela évite l'idée que vous devez toujours avoir tout ensemble et tout intégré dans un guichet unique. Je pense qu'il y a certainement des situations où si vous ne voulez pas l'intégration, vous voulez des services séparés parce que c'est la meilleure façon. Alors, je voulais simplement dire aux gens que enfin, le libellé qui est utilisé en Inde et que cela peut aider à éviter certains des conflits que nous avons vus. Merci. Donc ça c'est très excellent. Bonjour, je suis Laura. Je travaille pour le programme d'aide internationale à l'école de Harvard sur la santé publique. J'ai une observation aussi d'abord qui repose enfin c'est la question du libellé à nouveau et le travail auquel j'ai participé. Et je trouve que j'ai beaucoup de difficultés avec la question du libellé parce que je pense que ça a été utilisé de façon très nébuleuse. Et je pense que lorsque des gens différents disent intégration, ils disent des choses bien différentes. Alors dans la présentation finale, je suis très reconnaissant de voir que cela a été ventilé et que cela quand lorsqu'on parle d'intégration d'un service individuel avec un autre service devant la discussion au niveau de la directionnalité. Et je crois que c'est très important au niveau de savoir de la façon dont les populations sont rejointes. Aussi, une autre observation, c'est que tout le monde parle de l'environnement des politiques et du besoin d'avoir une politique globale là où cela doit se produire. Là où je suis tout à fait d'accord, c'est que je pense que ce n'est pas suffisant d'étudier les politiques de l'élément d'analyse du contenu et des niveaux de mise en œuvre. Et aussi, ça c'est très important, et surtout dans ce champ. Merci. Bonjour, je suis Karen Ling. Je travaille pour MPAF au Kenya. Alors, c'est une observation aussi et peut-être une réaction des conférenciers concernant les liens, la convergence. Je vois ces questions d'intégration des services VIH avec les services de maternité, des planifications familiales. Je travaille avec PMTCT. Nous parlons beaucoup de prévention de la mère, de la transmission mère-enfant. Et je suis intéressé aussi dans la prévention de parents-enfants et de aussi peut-être de l'intégration des partenaires et des conjoints et des soins maternels enfants parce que à titre de travailleur de santé, lorsque j'ai des hommes qui viennent, on leur pose toujours la question où est-ce que la femme se trouve. Ils sont peut-être mis de côté et gênés de se présenter. Dans ce contexte, je pense que le counseling au couple joue un grand rôle dans l'intégration de ces services. Merci à tous. Nous allons prendre l'observation finale et nous allons prendre les réponses. Je suis Dr. Lelala. Je suis du Sri Lanka. Je travaille avec les patients VIH et aussi avec maladies transmises sexuellement. Je voudrais aussi que l'on parle que c'est peut-être préférable lorsque vous avez tous les mêmes services au même endroit, mais avec des services de spécialité et ART, tout peut être fait dans des environnements de santé reproductive avec toutes les... Quand on parle de liens, est-ce que l'on pourrait avoir amélioré divers services ou améliorer la connaissance des travailleurs de la santé à cet égard de ces nouvelles installations? Merci. Maintenant, nous avons des réponses ici. Non, mais pas. Je pense que c'est... Enfin, qu'il y a des questions, des observations concernant les politiques, l'environnement des politiques, comment traiter ça au niveau mondial. Je pense qu'il y a des questions précises concernant le niveau de convergence et comment nous utilisons ces mots. La dernière question, est-ce que nous recommandons une intégration complète de tous les services? Il y a assez de services. Je ne pense pas que ce ne soit le cas, mais peut-être que... Non mais... Bon, je ne pense pas que c'est une question de recommander les services intégrés, les gens de toutes les situations. Je pense que c'est une question empirique que nous devons faire des recherches en essayant de poser une question d'intégration. Ce sont des services. Est-ce que c'est la meilleure façon de fonctionner? C'est une question empirique que nous devrions rechercher et en fonction de ces données faire la recommandation. Bien que je comprenne l'utilité de penser à de nouvelles terminologies pour les opérations, pour comprendre que certainement elles sont intégrées dans le sens de co-louer au niveau des services qui sont offerts ensemble. Est-ce que c'est vraiment une option de service que nous voulons étudier et garder en tête? Bon, mon point de vue là-dessus, c'est que je pense qu'on doit être responsable de ce qui s'est produit sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui influencent la façon dont les travailleurs de santé offrent leurs soins. Il y a des questions d'environnement culturel. Et je pense que la clé, c'est d'être responsable, de répondre aux besoins des communautés. S'il n'y a pas d'autres installations qui offrent les soins, à ce moment-là, vous allez gagner. Votre point de vue, enfin, votre vision devrait être d'essayer de répondre aux besoins de la population. Mais s'il y a d'autres travailleurs de santé qui sont prêts à faire partie, alors dont ils veulent participer, je pense que c'est difficile pour nous d'attendre d'avoir toutes les preuves, d'avoir toutes les données, ça prend du temps. Les gens ont besoin de soins, ils ont besoin des soins maintenant. Et d'une certaine façon, il faut répondre maintenant. D'autres observations? Non? Personne? Ok. Non? Dorothée? Oui? J'ai tendance à penser que c'est essentiel de nous faire beaucoup d'interventions, de plaidoyer et de sensibiliser les donateurs parce que les gens ont besoin de services qui sont plus complets. Alors les donateurs doivent écouter ces voix et de relever ces questions et de faire quelque chose. Et je pense que c'est essentiel que nous soulevions ces questions, peu importe où nous sommes. Alors, nous commençons à travailler dans des endroits, dans des donateurs, on leur parle, les consulter, et de leur montrer même si on n'avait pas suffisamment de preuves que ce sont des besoins qui sont déjà là, et les gens veulent des services d'une certaine façon, et ils vont devoir répondre. Alors, merci. Je pense que nous avons terminé à l'heure. Alors, donc, c'est une bonne chose. Je voulais vous remercier de votre participation. Et merci à tous les conférenciers d'excellentes présentations. Et je vous lance le défi de revenir dans 2 ans avec plus de preuves, plus d'expériences dont on nous pourra parler et de politiques de découverte dont nous pourrons être très fiers. Merci.